à toutes et à tous, bienvenue ce soir dans Témoin Oculaire sur Radio Galère 88.4. Nous sommes en direct pour une heure d'émission de 21h à 22h tous les premiers mardis du mois. Radio Galère disponible donc en DAB+ sur Marseille et aussi sur radiogalère.org. Alors ce soir, il y a un petit problème, une petite modification si vous voulez, de planning. Il y a le concert en fait de Le Douille qui était prévu à 21h. En tout cas, il avait été annoncé à 21h ce soir. Du coup, restez à l'antenne pour les fidèles de Radio Galère. Il sera en direct le concert à la fin de cette émission, donc à 22h. Nous ce soir, donc je suis toujours, c'est pour le deuxième numéro donc de Radio Galère. L'émission se fait ce soir donc à deux, bah histoire ouais. De faire la paire.
Bah ouais, on est tous les deux. J'ai allumé des bougies, t'as remarqué, c'est mignon.
Ouais, on est dans une ambiance un peu intimiste. Alors donc, nous sommes avec l'homme aux multiples talents, notre Steve Austin, marseillais, sous Doliprane.
La brosse à reluire, parce que j'ai pas dit non, parce que je suis tout malade, mais je suis quand même venu.
Ouais.
Parce que j'ai vu plein de choses et on va parler de plein de séries.
Plein de séries.
Ouais, plein de séries, plein de films.
Des trucs intergalactiques un
ouais,
peu.
Ouais, c'est Noël.
C'est Noël, voilà. C'est le mois de décembre, c'est Noël. Et donc, du coup, écoutez, on va parler quand même de The Irishman. Ouais, excusez l'accent. Irishman, qui est donc le dernier film de
Scorsese.
De Scorsese, le vieux Martin, qui a sorti son film donc sur Netflix.
Mais je l'ai pas vu, tu l'as vu toi?
Ouais, moi je l'ai vu. Je l'ai vu en trois fois par contre. Hein, parce que 3h30 sur le canapé, c'est long pour un film.
T'avais du popcorn?
Ouais, presque.
Presque.
Ouais. J'avais surtout un plaid et c'était un peu le problème quoi. Et donc on va parler d'Irishman ce soir. On va aussi parler des Misérables comme on l'avait annoncé à l'émission précédente.
Et tu l'as vu?
Et je l'ai vu. Je l'ai vu aussi les Misérables. Le Misérable de Lajli, film qui a été donc récompensé au dernier festival de Cannes.
Justement, à chaque fois je sais, ça m'énerve qu'on récompense un film avant qu'il sorte.
Qui représentera la France.
Ouais, non, mais il ça m'énerve à chaque fois.
Pourquoi?
Parce que je suis sûr que ça conditionne le visionnage.
Ah bah c'est sûr. Hein.
Le mec il est primé.
Il est primé mais ça conditionne la sortie.
Je suis obligé d'aimer. Je suis pas.
Ah non, moi je suis pas obligé d'aimer.
Tu as aimé?
Hein? Je trouve ça intéressant.
j'aime bien ce mot intéressant.
Je trouve ça intéressant.
Tu vas en parler.
Il y a des trucs bien. Bon, on a le temps de revenir là-dessus. Donc toi, Mickaël, ce soir, tu vas nous parler de quoi?
L'actu Star Wars du mois, parce que il y a effectivement la sortie du dernier volet de la dernière trilogie. On va clore le chapitre Skywalker, mais il s'est pas passé que ça Star Wars ce mois-ci. Donc je voulais vous parler un petit peu de la sortie de Star Wars et petit truc pour Noël. Oui, mais ça en fait partie, mon cher. Le petit truc pour Noël, c'est une petite sélection des meilleures séries de 2019 qu'il ne fallait pas rater.
Eh oui,
il y en a eu des bonnes, il y en a eu des bien.
Ouais, tu vas nous dire tout ça. Nous, toujours, une émission cinéma, mais aussi musique. Donc ce soir, en fait, la thématique, si vous voulez, comme on aime beaucoup Martin Scorsese et qu'on a un peu peur, on a quelques inquiétudes par rapport à ce dernier film un peu testamentaire de lui et de toute son équipe. Donc on a décidé en tout cas d'avoir comme ligne directrice de récupérer des morceaux qui apparaissent en fait dans les films de Martin Scorsese. On a à la fois un morceau des Affranchis, on a aussi un morceau de Main Street, on a d'autres choses comme ça, des surprises. Donc on va tout de suite vous balancer le premier morceau, c'est Remember de The Shangri-Las, ça apparaît dans les Affranchis. À tout à l'heure.
Whatever happened to
On est de retour sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Témoins Oculaires, toujours disponible en DAB+, sur Marseille et sur les internets aussi avec radiogalère.org. Il est 21h07, on va aujourd'hui faire un petit édito. À l'heure où le cinéma est devenu donc un pur produit de consommation courante, certains contenus continuent encore de se battre pour préserver une certaine idée de la création artistique. Les coupes budgétaires se multiplient dans les secteurs publics, les moyens financiers des acteurs sociaux sont réduits davantage encore alors que d'autres seraient attribués sur un principe sélectif et à des fins parfois électoralistes. Cette semaine encore, les Françaises et les Françaises issus des secteurs publics comme ceux du privé se mobilisent contre la réforme des retraites. On nous parle maintenant d'une retraite à points. Nous avons aujourd'hui donc dans cette époque très tourmentée la chance encore de vivre des moments de cinéma fabuleux. Deux individus donc issus de l'immigration sur des continents différents et à des époques différentes traitent en substance en fait des mêmes sujets. Chacun à leur manière nous propose une mise au point justement sur d'étranges réalités. L'une est connue comme le Nabo, celui qui a vu le jour donc dans les quartiers chauds du Queens de New York au début des années 40 et qui sort ce mois-ci son dernier film au budget pharaonique, de 160 millions de dollars, avec un casting 5 étoiles mais visible uniquement hors circuit traditionnel du cinéma, c'est-à-dire sur son téléviseur. Ici, le film révèle les rouages et les luttes internes de la mafia en lien avec le monde politique. L'autre, c'est un type de Montfermeil, en banlieue parisienne, de la Cité des Bosquets, le Seine-Saint-Denis style. Il présente son premier long métrage donc dans l'ensemble des salles françaises. C'est un premier film bien produit qui traite lui aussi, mais à sa façon, de l'amorosité de la jeunesse délaissée. D'un côté, on a le film de vieux croulants toujours pas retraités, qui n'ont plus rien à prouver mais qui jouissent d'un dernier tour de piste en mode masterclass. Et de l'autre, la vitalité de la jeunesse française s'affranchissant des règles, égarée, sans repère, mais condamnée au retrait. Dans un cas comme dans l'autre, on se demande qui sera en charge d'attribuer les bons points pour au final obtenir la plus belle image. C'était l'édito que j'ai écrit pour cette deuxième émission. Tout de suite, on va partir sur des choses un peu plus légères. La chronique de l'ami Michael. Mr. Dolly Prince.
C'est pas bien de se moquer toi. D'abord.
Non, on se moque pas.
Je note tout, moi. Bon, moi, tu vois, cette semaine, j'étais excité. Ça y est, ça commence. C'est le mois Star Wars, gros. On l'attendait, c'est la fin de la trilogie. On va finir l'arc Skywalker, on va connaître la fin de l'histoire. Et maintenant, Star Wars, ça devient quoi? Parce que Star Wars, ben...
Ça devient quoi?
Ben, c'est acheté par Disney. Alors c'est... du coup Disney, est-ce que ça va nous alambiquer un petit peu le discours? Est-ce que ça va être quoi les nouvelles histoires? Alors toi, tu connais Star Wars, tu as connu la petite trilogie enfant, Luke, Han Solo. Tu as essayé de comprendre la première trilogie après, là, avec ce système un peu politique.
Exactement, ouais. Je me suis dit que j'avais la chance de la voir en étant né, la première trilogie de Lucas. Et j'étais allé la voir au cinéma, ouais. Voilà. J'avais pas gardé un souvenir formidable, mais.
Et là, on regarde la fin où on casse un peu les codes, on s'amuse. Mais il y a des gens un peu comme moi où Star Wars, mais on l'a connu un peu plus profondément. Tu vois, moi, quand j'étais gamin, je faisais des jeux de rôle Star Wars. Donc, on avait une Bible qui nous racontait l'envers du décor, tout le reste de ce qui se passait, le background de l'histoire. Et il n'y avait pas forcément des Jedi, il n'y avait pas forcément Skywalker, il n'y avait pas forcément Dark Vador. On jouait peut-être même pas aux mêmes époques. Donc, Star Wars, ça va devenir quoi? Et. Alors vous ne l'avez pas encore vu parce que ça va être diffusé en France qu'à partir du mois de mars sur le nouveau support Disney. Mais arrive maintenant The Mandalorian où on change complètement un petit peu l'histoire. Il n'y a pas forcément de Jedi. C'est un western, un vrai western, mais tourné comme du Star Wars. Des grands plans léchés, des grandes belles images. C'est même un peu lent hein, pour 30 minutes d'épisode.
Un western galactique.
Un vrai western galactique avec tous les codes du western. Avec un héros aujourd'hui qui n'a toujours pas enlevé son masque. Et qui pourtant te joue des émotions de ouf, comme quoi les gens qui ont fait un peu de comédia d'alerte peuvent comprendre que jouer avec un masque neutre, on peut aussi te donner des émotions. Donc, un super truc à voir, The Mandalorian. Alors, ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux ont été spoilés hein, du personnage mythique qui arrive dans cet univers. On a un bébé, Yoda.
Ouais.
Alors, il est super mignon. Mais on ne sait pas ce que ça va devenir là, quoi. Là, on n'a jamais supposé que Yoda ou que les Yoda, on en avait vu plusieurs. On a vu une femme Yoda dans un des épisodes précédents. Alors, est-ce que Yoda avait bravé son serment de Jedi et avait quand même batifolé pour faire une progéniture? On ne peut pas savoir.
On ne veut pas savoir aussi.
La chronologie de l'histoire se passe entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc, après la mort de l'empereur dans le retour du Jedi. Est-ce que ça va avoir une incidence sur le film qui va sortir là? Voilà, on attend.
On attend.
Voilà. Et on a encore été gâtés, encore une autre histoire. On a eu le droit aux jeux vidéo Star Wars chez Electronic Arts. Oui, je suis un geek, arrête de me regarder comme si... voilà, oui, je passe mon temps, je bosse, je joue aux jeux vidéo, je regarde des séries, j'ai le temps. Donc, affaire.
Ouais.
Une histoire à tenter, le jeu accessible à tout le monde et pour les bons gamers et pour les casual gamers. Affaire. Voilà.
Mais du coup, alors The Mandalorian, alors comment c'est...
Écoute,
on va pas spoiler, mais on peut quand même parler de 2-3 trucs, j'imagine, non ?
Tu retrouves tous les codes. Tu vas retrouver tous les codes du western. Donc on a un personnage, c'est un bounty, donc un chasseur de primes, qui va chez Lando Calrissian, tu vois qui c'est Lando Calrissian ?
Ouais, ouais.
C'est
ouais.
Le copain d'Han Solo qui lui avait vendu le vaisseau, etc. Donc il va chercher là-bas des primes, donc des contrats. Et tu te retrouves vraiment avec cet univers où c'est des chasseurs de primes qui se tirent la bourre entre eux de planète en planète sur les mêmes contrats pour essayer de récupérer. Donc lui, donc, il vient d'une tribu légendaire de chasseurs de primes. Tu l'as déjà vu, des chasseurs de primes? Vas-y, réfléchis. Allez,
non, chasseur de primes un peu à la Charles Bronson, quoi.
Ouais, à la Charles Bronson. Mais dans Star Wars, c'est lequel? Il a le même masque que le Mandalorian. Tu m'en as parlé tout à l'heure.
Comment il s'appelle? Boba Fett, non?
Ah, voilà. Putain. Et ça devient dur de jouer avec toi. Et Star Wars, quand même, il y a des bases. Ouais. D'accord.
Ouais, ouais.
D'accord.
Mais je pense qu'il y a des spécialistes dans la cabine, mais ils ne veulent pas en parler, en fait. C'est ça.
On a un lapin. On a un lapin, mais qui
connaît très bien Star Wars aussi.
Il connaît
mais...
Star Wars, mais il veut pas intervenir, il a dit. Ouais. Il passe les disques. C'est le DJ, c'est le lapin. Le lapin nous regarde, Pierre. 1-0. Eh oui.
Ouais.
Voilà. Ouais, parce qu'on a fait un petit jeu ce soir, c'est qui réussira à placer des répliques du Père Noël est une ordure pendant l'émission. On marquerait des points, je viens de marquer le premier. Donc pour le Mandalorian, je te disais, donc on est vraiment dans le thème du western avec un personnage qui va avoir des gadgets, des armes un peu spéciales. Il vient d'une tribu.
Il y a un truc avec des métaux, non? Il y a pas un truc comme ça.
C'est un petit peu ça, c'est que la fierté de sa tribu, c'est d'avoir dans son métal d'origine de leur planète là, il récupère ça comme monnaie et il se fabrique une armure. Donc plus tu as l'armure rutilante faite avec ton métal, plus tu désignes que tu es un bon chasseur de primes et que tu es sur la liste des autres chasseurs de primes, bien entendu. Voilà. Et il se retrouve donc à devoir escorter un bébé Yoda. Et finalement, il ne le laisse pas à son commanditaire. Donc, il se met un petit peu tout l'univers à dos et qui veut récupérer un bébé qui a la force, mon petit.
Mais est-ce que tout ça, c'était pas un peu sa destinée?
Est-ce qu'on ne peut pas considérer que Star Wars ne parle que de destinée, justement? Ouais. Non, t'as vu? Monsieur Katia. 2-1. Monsieur Katia, 2-1, voilà. Alors, j'ai une petite fiche violette à remplir, si après vous voulez, parce que c'est important pour ce soir. Il faudra m'aider à remplir ma fiche violette, monsieur. 3-1.
Ah, mais t'es trop concentré sur le Père Noël est une ordure. Putain,
et je sais. Mais par contre, parle-moi de The Irishman, voilà, parce qu'on en a parlé, on veut l'oscariser, etc. D'abord, est-ce que le film vaut le coup? Parce que moi, j'ai.
Bah, The Irishman, j'ai déjà, avant de parler du film, il y a quand même un truc qui est assez intéressant sur le principe de diffusion et aussi sur le format. On avait eu cette discussion il y a quelques jours, justement, où on trouvait ça assez étonnant, un peu ce nouveau format Netflix qui donne carte blanche, justement, enfin, qui fait tout pour pouvoir aspirer un peu les grands réalisateurs, les réalisateurs de renom, leur proposer des budgets faramineux, leur envoyer justement de la thune à gogo, leur laisser carte blanche pour pouvoir faire leur film.
Pourquoi est-ce que le cinéma devrait être que en salle? Je sais pas, aujourd'hui, ils se consomment autrement.
Non, c'est pas la question de savoir s'ils pouvaient être que en salle, mais est-ce que justement, ils avaient aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle ère un peu aussi de proposition de cinéma et de consommation, je trouve. C'est ça qui devient intéressant.
Mais moi je suis pas. Enfin, pour l'instant, j'arrive pas à me faire d'idées en ce moment. Au départ, j'étais content de Netflix qui me proposait de binger une série dès qu'elle sortait en 10 épisodes. Maintenant, je me dis que ouais, j'aime bien finalement attendre une semaine sur l'autre, que l'épisode soit diffusé. Ça me laisse le temps d'y réfléchir, d'y prendre goût et pas de la manger en un coup et de me dire « Ah, goût de passé, quoi ». Donc, je sais pas.
Parce que du coup, est-ce qu'on est vraiment sur du cinéma?
Mais est-ce qu'il se permet pas aussi des scénarios où les autres sont un peu fragiles et ils voudraient qu'ils soient rentables? Je pense que Netflix, il a un modèle économique où il va la rentabilité à très très long terme et pas forcément à court terme. Et je pense que les gros studios, ils voient ça à court terme et donc ils prennent certaines franchises et ils nous resservent le même film éternellement, quoi.
Ouais.
Donc, est-ce que les films Netflix, de par leur fait, ils sont assez novateurs pour dire c'est un bon format? C'est plutôt là qu'il faut creuser.
Mais est-ce que justement, on n'est pas sur un truc un peu de série? C'est-à-dire, enfin, toi, t'as pas vu le film Irishman, mais c'est vrai que, enfin, je pose un peu la question si, aux auditeurs, c'est-à-dire que il y a quand même quelque part, pour ceux qui l'ont vu, un aspect un peu série, je trouve, sur la réalisation du film, sur son aspect, sur sa longueur aussi, c'est-à-dire que c'est un film qu'on aurait très bien pu en fait découper en plusieurs parties, on aurait pu le faire en une saison par exemple.
C'est peut-être un caprice du réalisateur, ça, qui a pas voulu se dire tiens, je fais une série.
C'est probable, ouais.
Je pense que c'est plus ça le truc, et qui s'est dit justement que quand le film va être diffusé, le téléspectateur ou le spectateur peut couper, aller aux toilettes, se manger un popcorn et le prendre en 10 minutes. S'il a envie de le couper, il peut, mais il peut aussi se le taper en un coup sans aucune coupure. Ça peut aussi, c'est un choix artistique, je sais pas. C'est le format maintenant, enfin,
sans
qui
aucune
aussi...
coupure. Félix, tu fais quoi dans la cuisine?
Moyen.
Elle est là quand même.
Moyen.
Ouais, de partout. Attends, il y a un arbitre ici ou pas? Mais ouais, donc c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Et puis tu me disais aussi qu'il y avait un truc en fait avec Netflix et l'Académie des Oscars, je crois, où il y avait un truc comme ça.
C'est ça, donc si ton film sort pas en salle, tu peux pas prétendre à être oscarisé.
Donc il y a quand même une espèce de...
Comme quoi, il y a que les... bah, ça marche aussi pour Cannes. Hein. Cannes avait fait ça, si ma mémoire est bonne.
Oui, ils avaient refusé des films.
Ils avaient refusé des films qui avaient été diffusés sur Netflix et qui avaient fait un gros carton. Alors, est-ce que le nombre de diffusions garantit le résultat? C'est toujours pareil. Est-ce que le prix garantit le résultat aussi? Je pense que les avis, ils sont un peu tiraillés à l'avance d'avoir vu un film. Oui. Je pense qu'on a du mal à pouvoir se faire un film... se faire un avis positif ou négatif, mais de se dire voilà, il n'a pas été influencé.
Ouais, il a pas été influencé. Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est l'Académie en soi. Enfin, nous, on n'est pas américains, donc en même temps, on connaît pas forcément tous les aspects du règlement qu'il peut y avoir par rapport aux Oscars et des choses comme ça. Parce que j'imagine que ça doit être quelque chose qui date. C'est pas en tout cas.
Je sais pas. Et après, quelle est la différence de cahier des charges et de boulot une fois que t'as signé ça avec une major ou que t'as signé ça avec Netflix? Quelle est la marge de manœuvre qu'on va te laisser? Qu'est-ce que le producteur il va te placer comme produit ou va t'exiger comme plan ou... Je sais pas, il faudrait être confronté devant le truc pour savoir c'est quoi la vraie différence entre les deux.
Ouais, c'est vrai, c'est étonnant. Faudrait s'interroger dessus si, en tout cas, il y a des personnes qui ont des réponses à ça. Vous pouvez, en tout cas, si vous le souhaitez, nous joindre à l'antenne en direct. Hein. Vous pouvez passer à l'émission 04 80 08 28 10 en direct sur l'émission. On va passer un petit morceau de musique et puis on revient après pour The Irishman. On va tout de suite... vous passez Nobody But Me de Human Beings dans Les Infiltrés. Can do. Fill it! On est de retour, il est 9h22, on est sur Radio Galère, 88.4, DAB+, en direct sur Marseille, jusqu'à 22h. L'émission aussi diffusée sur radiogalère.org. On vous donne le numéro à nouveau si vous voulez contacter l'émission et pouvoir discuter avec nous, 04 91 08 28 10. Et vous passez en direct à l'émission avec Mickaël et moi. Donc concernant en fait The Irishman, ouais, effectivement, c'est un film assez impressionnant. C'est un film quand même qui est d'une durée de quasiment 3h30. C'est un film où il y a principalement que des vieux à l'écran.
Et il paraît qu'il y a des effets spéciaux pour les rendre jeunes.
Et ouais, il y a cette nouvelle technologie. Alors j'ai oublié le terme américain précis, mais c'est vrai que voilà, il y a des moments en fait où les personnages, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment eux. À la rigueur, les maquillages, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant. Enfin, on arrive bien à les vieillir. Enfin, il y avait des trucs dans les, je pense, c'est les mêmes technologies qu'il y a pu avoir dans
Benjamin
Button, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais non, je rejette pas la technologie, mais parfois je trouve que ça fait plus réaliste, tu vois, en termes de.
Je me rappelle la première fois où ils ont fait ça en incluant par exemple Schwarzenegger dans un des Terminator. Là, j'avais été bluffé au cinéma, j'avais trouvé ça génial, quoi. Donc, faire ça en numérique, pourquoi pas.
Ouais, ça fonctionne, hein. Enfin, le truc c'est qu'on n'a pas l'impression, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui dénature un peu, quoi.
C'est pas parce que nous on les a connus jeunes ou on essaye de les comparer.
C'est là où, ouais, en fait le truc c'est qu'en les voyant vieux, on se demande si nous en fait on n'a pas pris un peu plus de bouteilles aussi.
Ils pensent quoi, les petits jeunes, quand ils voient ça? Je sais pas, c'est à eux qu'il faut demander.
Ah, pour eux c'est des vieux, quoi.
Oui, mais quand ils les voient jeunes, est-ce que l'illusion fonctionne?
C'est un peu comme nous quand on voyait, je sais pas moi.
On m'a appelé monsieur dans le tramway aujourd'hui, c'est vrai.
Yves Montand, quoi, tu vois.
Ouais.
Ou Alain Delon, pour moi Alain Delon ça a toujours été un vieux, quoi.
Je trouvais qu'il mourait tout le temps dans ses films, je comprenais pas quand j'étais gamin. Je me disais, il est mort dans le film d'hier, pourquoi il rejoue lui, ce soir? On est tous les soirs à famille avec Alain Delon. T'aimes bien Alain Delon, toi?
Ouais, j'aime bien Alain Delon, surtout quand on le met en paquet,
et
quand
Charles
je distribue Bronson
avec nous,
aux girafes.
Charles Bronson, ouais, avec nous.
Les girafes aussi avec des cadeaux de Noël.
Bah, c'est nul.
Mais ouais, donc du coup il y a ce truc là un peu avec Irishman qui est déstabilisant au départ, surtout que mais il y a des plans en fait parfois, donc c'est vrai que sur les visages ça peut fonctionner un peu, mais quand même à un moment donné il y a une motricité, il y a un truc, il y a un peu d'arthrite, quoi, dans les genoux. C'est
alors j'imagine c'est du Scorsese, du plan léché, des
non,
il y a du mouvement.
Ça... En termes de réalisation, c'est vraiment. Alors là, on est quand même dans un truc assez masterclass de la part de Scorsese, qui est vraiment intéressante. On est dans un mélange. Enfin, on est vraiment dans les thématiques mais en tout cas les réalisations des affranchis, même voire de casino, vraiment dans le film un peu mafia de Scorsese,
ouais,
dans
cette thématique là.
Il change pas de registre. Il commence direct de toute façon l'ouverture du film, c'est avec un espèce de long plan séquence à travers les couloirs de l'hospice là où il y a le Robert De Niro, donc Frank Sheeran.
Et ils plantent le décor. Ça parle de quoi en fait?
Donc en fait, en gros, l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire en fait donc de Frank Sheeran. C'est une saga en fait sur le crime organisé dans l'Amérique d'après-guerre, qui est racontée donc du point de vue en fait de Frank Sheeran, qui est lui en fait un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale.
Il est-elle sur combien sa narration d'histoire là?
Ouais, ça fait à peu près jusque dans les années 90, je pense, au moment en fait, okay, où les mecs sont quasiment tous morts de vieillesse.
Tu m'étonnes.
Bah après, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'il nous met à chaque fois qu'il y a un personnage qui intervient, en fait, il nous informe, si tu veux. Ça, c'est un truc assez intéressant. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui arrive dans le film, il te met en fait un petit texte à côté de sa tête. Alors merci, tu vois, la technologie, parce que ça, on le faisait pas avant. Et il y a un petit texte à côté de sa tête avec genre son nom, ce qu'il fait, sa fonction un peu, si tu veux, dans le système mafieux, et la façon dont il a été assassiné avec sa
date
de décès.
D'accord, oui, c'est pas une biographie. Voilà.
T'as pas une biographie.
C'est pas Wikipédia qui s'affiche. Quoi, ouais.
Une nécrologie en fait.
Une nécro.
Express. une petite nécro express, si tu veux, du personnage.
Donc il va pas durer
longtemps.
Genre
lui, il est mort de 3 balles dans la tête. Lui, il a été étouffé à l'arrière d'une voiture. Lui, il a disparu.
C'est bien, c'est varié.
Ouais, c'est ça. Mais les techniques sont variées quand même. C'est vrai qu'à l'époque quand même il faisait preuve d'une certaine créativité.
Mais il y avait une poésie dans le jeu, dans le truc.
Ouais. Il y avait une poésie.
Une petite poésie.
Il y avait une certaine poésie. À chaque fois je cherche une phase du Père Noël est une ordure et j'arrive pas à rebondir dessus.
Si, mais... le village est mignon là. Regardez.
Je me disais qu'il manquait un truc pour descendre les poubelles. Bah, ça là, elle est facile. C'est vrai que ça là, elle est facile. Mais on la connaît tous. Il est 20h, moi j'ai un peu faim. T'as pas un doubichou peut-être?
Non, mais ça c'est
Cloug. J'en ai enchaîné deux. Allez, ça, c'est Cloug. On est à combien? On est à 5-3 là, 5-3 pour l'instant.
Et attends, on va demander à la parole. Tu tiens les scores ou pas?
On t'entend pas.
Ah là 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 là.
Ouais, il tient les scores apparemment, il tient les scores.
Non, mais il nous fait des signes avec les mains. Il essaie de communiquer, hein, tu sais. Je le sens qu'il veut nous dire quelque chose. Regarde. Une
oui, je compte les scores.
Ah, ah, beau garçon, ça.
C'est bon. On a notre. Comment il s'appelle notre Clément Turpin.
Ah, c'est vrai, c'est la famille.
Ça va aller, là.
Ouais, le Lyonnais.
C'est la famille. Penalty Lyonnais.
Bah, du coup, pour revenir en fait, bah, voilà, au Irishman, c'est un film donc, qui couvre bah, effectivement plusieurs décennies, qui relate aussi donc, bah, toutes sortes de mystères de l'histoire des États-Unis, notamment, parce que c'est ça vraiment la trame de fond, c'est la disparition en fait, du grand syndicaliste très populaire à l'époque, très connu, qui était Jimmy Hoffa.
Hoffa.
Et donc il a disparu. Mais nous on sait comment il a disparu, mais les gens de sa famille n'ont
il
jamais su.
Il lui avait dit si tu continues, on va te taper. Un point, s'il te plaît. Un point.
C'est le noir au début.
C'est vrai. Putain, Michael, tu vas loin dans le film. Ouais. Mais je pense que tu mélanges parfois entre la pièce
non,
et
non,
le
non,
film.
Non, là c'est le film. Là c'est le film.
Là c'est le film. C'est pas la pièce. Ok.
Si tu continues, on va te taper.
Donc du coup, ouais, bah, en fait, voilà, bah, le film, en fait, c'est quoi? C'est que bah, Robert De Niro, voilà, donc Frank Sheeran, c'est un mec qui, au début du film, a à peu près entre 45 et 50 ans. On lui donne facilement 65 parce que bon, en fait, voilà, il a des problèmes un peu de motricité. Il fait quand même vieux. Hein, je veux dire, il a pas la tête de sa jeunesse. Qui est en fait un mec assez simple. C'est un Irlandais. Et en fait, il livre de la viande, quoi. Et
il frappait sa femme à coups de fer à souder, mais parce que vous êtes pas bricoleur, vous pouvez pas comprendre.
Joyeux Noël, Félix. Et du coup, donc le Franck, un jour, en fait, il commence à mettre un peu à mettre le doigt dans le pot de miel. Il commence un peu à goûter au truc et en fait, il commence à détourner de la barbaque pour pouvoir proposer en fait bah, ce groupe de mafieux de la viande de meilleure qualité à un prix très intéressant. Et au fur et à mesure, en fait, parce que c'est un mec qui a pas froid aux yeux, bah, il va commencer à remplir des petites missions. Et il va progressivement en fait devenir un homme important, un homme de main.
À travers les échelons, quoi.
Ouais, un homme de main. Il va commencer en fait à assassiner comme ça, bah, pour le compte de différents acteurs du film et notamment pour le.
Il devient détaillé en barbaque de trucs. Ou...
Ouais, il reste un peu bouché, quoi.
Ah ouais.
Ouais.
Et il fait quoi des corps? Ça passe à la boucherie ou?
Non, les corps, il les découpe, il est. Non, il les fait même pas disparaître en réalité. Il tue des mecs sur les trottoirs, quoi.
Bah, regarde Dexter, c'est mieux alors.
Ouais, Dexter, une série mais de l'année 2014. Après, tu nous feras ton classement hein, des séries qui fallait pas voir et des séries qu'il faudra certainement voir aussi.
Sur 2019, il y a des super trucs à voir.
Qui arrive.
Qu'il fallait pas rater.
Donc, on est vraiment sur un truc un peu entre Les Affranchis et Casino. Donc, en fait, bah, le film, donc, sur la première heure, c'est une longue introduction, une très très longue introduction, en fait, sur les 3h30 du film. C'est Frank Sheeran, en fait, qui, en voix off, témoigne un peu, raconte, si vous voulez, tout ce truc-là de cette existence, des gens qu'il a rencontrés lorsqu'il a fait justement ce dérapage, on va dire, ces assassinats. Lui, Scorsese, en fait, si vous voulez, il est dans un principe un peu de flashback. Il parle de cette époque-là, qui est une époque assez, assez représentative de son cinéma aussi. Hein. C'est vraiment les années 50, les années 60. C'est sa jeunesse à lui. C'est peut-être même un peu plus tôt aussi, parce que c'est justement d'après-guerre. Mais c'est en tout cas une époque qui est toujours très présente dans son cinéma. Et donc, du coup, si vous voulez, à un moment donné... Bah, y a ce vieil homme qui arrive, qui est face à lui, et donc il rencontre aussi Jimmy Hoffa. Et il va petit à petit en fait se prendre d'amitié, se lier d'amitié pour lui, à tel point en fait que il va plutôt délaisser sa famille, en fait, notre ami De Niro, et il va de plus en plus en fait rester justement avec Jimmy Hoffa, qui est interprété par Al Pacino, et l'aider justement en tout cas dans sa progression syndicaliste, dans son rôle politique, dans son invasion. Je vais pas tout raconter du film, mais en tout cas, si vous voulez, il y a quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant. Il y a quelque chose aussi qui à un moment donné en fait nous attriste un peu à nous qui sommes aussi des grands amoureux du cinéma de Martin Scorsese. Alors peut-être pas tous les films, il y en a certains qui n'ont pas forcément toujours été sur en tout cas plus ou qui ont vraiment qu'on a vraiment
aimé. Je sais pas, moi de le revoir encore les deux ensemble, j'ai envie de dire encore, tu vois.
Bah là, pour le coup,
j'ai vu une vieille
photo. On a Al Pacino qu'on n'a jamais eu avant, quoi.
Ouais, j'ai vu une photo là de Starsky et Hutch là aujourd'hui. Là, je te jure, ça faisait peine. Et tu te dis, ouais, non, je préfère me rappeler de Starsky et Hutch avant, quoi.
Ouais.
Je sais pas. Comme tu disais, tu as commencé ton intro en disant, c'est un film testament. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être un testament.
Ouais,
pas.
C'est ça. C'est alors qu'on sent qu'à un moment, en fait, les mecs, ils ont pris plaisir. En fait, ils se sont dit, bah écoute, ça reste. Ouais, je pense que ça reste des mecs assez punk, un peu des années 60, 70.
Ouais, la tournée des vieilles canailles, quoi, c'est ça. c'est un peu ça, quoi. Johnny, Dutronc et Jimmy Chiel. Ouais, non, je sais pas. Ça fait un peu maison de retraite.
Mais c'est maison de retraite, hein. Ça commence dans une maison de retraite.
J'ai commencé au Doliprane, je les comprends ce soir, tu vois.
C'est bien, t'as le micro Bonnet John en plus.
Il est bien.
Doliprane.
Ça me fait penser à la fête.
Ouais, c'est vrai que c'est un film qui nous attriste un peu en fait sur le fond, parce qu'au final en fait tout le monde meurt de vieillesse, les mecs ils avancent dans l'âge, et je pense qu'ils ont fait un peu ce truc là, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'opportunité de pouvoir en fait récupérer un max de pognon à Netflix, et ils se sont dit ben on va ramener la bande et on va faire peut-être un dernier tour de piste. On va faire un truc où on s'éclate, parce qu'on sent quand même du côté de la réalisation, de la mise en scène, que Martin Scorsese il prend quand même pas mal de plaisir à faire ça. Ça reste aussi une leçon de cinéma, c'est ça qui est assez époustouflant aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression, si vous voulez, qu'à l'époque où lui a commencé à faire ses premiers films et qu'il a porté quelque chose de frais, on va dire, dans le paysage du cinéma d'auteur ou cinéma un peu indépendant américain avec Mean Street, avec Taxi Driver, avec même Les Affranchis aussi derrière, Who's Knocking at My Door et tous ces premiers films-là, voilà, qui étaient très inspirés aussi du cinéma européen, de la nouvelle vague. On sent aussi à un moment donné, si vous voulez, dans ce film-là, que Martin Scorsese, son cinéma, ses gimmicks un peu de réalisateur deviennent aussi quelque chose qui est de l'ordre du cinéma classique aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps a fait son œuvre et a rentré. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un constat qu'on peut se faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a une réalisation qu'on peut considérer comme classique.
Et ouais, est-ce que Hollywood aujourd'hui lui a pas dit non, en fait, il lui a claqué la porte et Netflix a vu une opportunité de faire un coup, quoi. Je sais pas. Est-ce que s'il est sorti sur Netflix, c'est pas Hollywood qui s'est dit non, c'est bon, ça va être une vieille redite de ce qu'il sait nous faire et ils avaient pas envie de cautionner.
Ouais, je pense qu'il y a.
Il y a un peu tout ça. Il y a un pied de nez. Tu vois bien qu'il y a une espèce d'aigreur dans sa com autour du film. Je sais pas.
Je saurais pas dire s'il y a vraiment eu une espèce d'erreur, en tout cas concernant le système. Après, c'est vrai que t'as raison dans la communication. Il a parlé aussi des films des Avengers et de tous ces films un peu de super-héros, ces franchises qu'on a depuis quasiment fin des années 2000, début des années 2010.
Je suis désolé, même si ce sont des films populaires, ils sont pas ratés du tout, quoi.
C'est pas ça, je pense, qu'il dit. Hein.
Bah lui, je pense qu'il les a pas vus. Il te dit, il classe pas ça dans le cinéma, quoi.
Il avait sorti un truc justement dans Quotidien où il parlait un peu de ça, où il disait un peu ce qu'il pensait. J'ai pas. C'était. Voilà, je retrouve, excusez-moi, sur mes notes. Mais ce qu'il disait en fait, voilà justement dans Quotidien, c'était que pour lui, les autres films, alors je cite, les autres films sont bien faits, c'est sûr, avec de très bonnes équipes. Mais c'est une nouvelle forme d'art et c'est différent. Mais je suis très inquiet que cela fasse disparaître la relation directe qu'ont les spectateurs avec les films qui traitent des hommes, de l'âme humaine, de la condition humaine, des films que l'on peut revoir dans 10 ou 15 ans et y trouver un nouveau message.
Ouais, c'est qu'il n'a pas aimé les BD déjà au départ. J'y peux rien. Ce que je te dis, il préférait les bouquins de gangsters à lire des comics. Donc. Il ne peut pas comprendre que c'est devenu une mythologie qui touche tellement de gens qu'elle touchera encore d'autres personnes. Enfin, quand je mets mes gosses qui sont fans de Spider-Man, alors que gamin, j'étais autant fan de Spider-Man, et mes oncles étaient avant, je trouve ça magique.
Toi, t'avais accès à ces comics-là, t'avais accès à ça.
Ouais, ouais.
Parce que moi, dans mon enfance, bon, on a quelques années d'écart quand même avec Michael, mais moi, dans mon enfance, j'avais pas ça.
Non, moi, j'étais très souvent chez mon grand-père et mes oncles qui avaient déjà 15 ans de moins que mes parents, avaient laissé traîner leurs BD qu'ils achetaient régulièrement. Donc j'ai lu plein de choses. Les Conan, chez Marvel, qui avait donc toute une série de trucs, Nova, Marvel, Strange, et après les éditions DC avec Batman, etc. Et moi, j'ai eu accès à ça. Et on a eu quelques dessins animés, on a eu des choses à la télé qui sont passées. Et moi, je bouffais de la télé. Donc on connaissait ces personnages, on les a vus évoluer. Quand je vois mes gosses, moi, qui ont le même engouement auprès de ces personnages-là, c'est que tu te dis que la mythologie, elle fonctionne. Ils racontent quelque chose qui touche toutes les générations. C'est un peu ça le délire. Et je pense que Scorsese, voilà, il a pas cette fibre et il peut pas comprendre que au-delà de l'effet spécial, moi au départ j'aimais pas toutes ces histoires de fond vert, les mecs qui tournent avec des tenues vertes et qu'on numérise tout. Bah, quand tu vois les contraintes qu'il y avait pour réunir tous les acteurs pour tourner les Avengers, par exemple, tu peux comprendre que bah, les costumes, ils les portaient pas et qu'on les a numérisés en post-prod. Voilà, donc la technique pour la technique, il en a utilisé aussi et puis il la reproche en disant que la technique prend trop de pas. Mais je pense que quand la technique est au service de la narration, ça devient intéressant. Quand tu tournes que la et que la technique devient, voilà, devient le bac qui blesse. Pour moi, l'histoire d'Avatar, par exemple.
C'est là où ça devient intéressant dans la discussion. Parce que justement, est-ce que la technique, elle sert la narration, justement ? Moi, je suis pas sûr de ça. Justement, je pense que la technique, elle dessert la narration, en fait.
Ben, pour en tout cas tous les comics, tant qu'on n'a pas eu la technique, et regarde même pour Star Wars, hein, Lucas avait tourné la première trilogie, et il a attendu qu'avec sa société ILM, Industry Light and Magic, avec laquelle il fabrique des jeux vidéo, il a attendu d'avoir la technologie numérique, et un jour, ses ingénieurs l'appellent et lui disent « ça y est, on a la technologie, on peut tourner épisode 1 ». Parce qu'ils ne pouvaient pas reproduire ce qu'ils avaient fait pour la première trilogie, les maquettes, les machins, etc. Et tout. Ça a été un chantier faramineux avec que des passionnés. Si aujourd'hui, il fallait les payer à la hauteur de leur travail, quand ils l'ont fait, tu n'aurais pas le budget pour le faire avec les mêmes outils que l'époque.
Une nouvelle fois, il a été précurseur aussi, là, Lucas, sur ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que c'est avec eux ce qu'ils ont fait, ce que lui, il a apporté justement.
Optiquement parlant, il n'a rien amené de plus que ce que faisait déjà Buster Keaton. Ce n'est pas
en termes d'optique, c'est en termes de savoir-faire technologique, c'est-à-dire en termes de synthèse. De création de décors, de création de volumes.
C'est eux qui ont donné la ligne. Voilà. Il a tout inventé. C'est pour ça que je dis qu'on a commencé vraiment à numériser, à pouvoir travailler avec ces fonds verts et rajouter des choses. Avant, pour rajouter un décor, tu filmais quelque chose et le haut était peint par un super peintre et on raccordait les deux au plan. Aujourd'hui, maintenant, tu as un fond vert qui va te simuler une autre planète et ça t'a rien coûté en temps. Et en travail, tu peux le tourner dans tous les sens et c'est beaucoup plus facile d'accès.
Là, je suis en train de sur tous tes plans.
Donc, c'est ce que je dis, si la technique elle se met au service de ta narration, le pouvoir de la suggestion, c'est lui la deuxième force dans un film. Est-ce que je vais montrer une explosion et montrer une voiture qui explose dans mon film ? Est-ce que c'est important dans mon histoire ? Est-ce que j'en ai le budget ? Ou est-ce que si je ne l'ai pas, ben je vais devoir le suggérer, le faire entendre, le faire comprendre, mais de toute façon ça sera dans l'histoire et je ne le montrerai pas. Donc à quel moment je vais me servir de la technique et que c'est superflu ? Ça ne sert pas à la narration, c'est ça l'art. C'est ça qui différencie le bon réalisateur du mauvais réalisateur. Réalisateur, il voit quelque chose, il tourne. Et le mauvais réalisateur, il tourne, tu vois. Et c'est un mauvais réalisateur.
Et on voit derrière au montage, quoi. On verra ça en post-prod. Ouais, souvent, c'est un peu ça.
Non, mais déjà, à l'intérieur, c'est magnifique. Pierre.
Mais c'est vrai, voilà. Enfin, très honnêtement, moi, j'ai un peu laissé de côté justement tous ces films-là, tous les films vraiment de super-héros. J'avais commencé à suivre un peu avec Iron Man. J'avais trouvé que le premier Iron Man et le second volet étaient intéressants. J'étais quand même retourné en voir au cinéma. Et puis en fait, j'ai eu un certain dégoût à un moment donné avec le troisième Iron Man. J'ai oublié son titre parce que ça fait déjà quelques années. Puis après, j'ai eu un véritable dégoût ensuite quand il y a eu le Man of Steel, le Superman qui a été fait.
Je suis d'accord, il m'a pas laissé un goût. D'ici au cinéma m'a pas plu en fait.
Moi j'avais quitté la salle sur ce film-là. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire vraiment parce que je poursuis les films vraiment jusqu'au bout. Mais à ce moment-là, enfin ce film-là, j'avais quitté la salle parce que vraiment ça m'avait dégoûté. Et en fait, si vous voulez, le truc c'est que voilà, bon, j'ai peut-être un œil aussi qui est trop aiguisé vraiment en termes de réalisation, de technique de cinéma. Et donc je vois vraiment les ficelles en fait de création. Et moi, ce qui me dérange particulièrement en fait avec justement ces films-là, c'est-à-dire ces films de super-héros, les films vraiment numérisés, les films tournés sur fond vert, c'est qu'il arrive un moment en fait où on voit que c'est sur fond vert. C'est-à-dire que le jeu de l'acteur, on voit en fait qu'il a rien en face de lui, qu'il a le regard en fait, si vous voulez, qui est ni au-dessus ni en dessous de la caméra, qui regarde vers le lointain mais qui regarde rien, qui regarde du vide en fait. Et c'est là où en fait, si vous voulez, moi j'ai quelque chose qui devient gênant. J'arrive pas à accrocher, je reste vraiment à distance du film. Et je trouve, si vous voulez, que la démarche, en tout cas, d'un mec comme Christopher Nolan, alors je veux pas être élogieux par rapport à Christopher Nolan, mais en tout cas, cette volonté, et peut-être aussi qu'on a eu par Todd Phillips, justement, sur le dernier Joker, cette volonté de repartir dans des décors, en fait, en dur, des décors naturels, de ressortir, en fait, du studio. J'ai l'impression qu'on part, en fait, sur le principe de la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il y a eu, en fait, ce retour, si tu veux, au studio, et un peu la période voilà, du cinéma des années 40.
C'est
années
ce que tu as retrouvé avec le dernier Mad Max, où il a absolument voulu tourner les cascades de voitures et pas les numériser.
Ouais, et c'est justement, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu vois en fait que quand les éléments en fait qui composent le film, qui composent la mise en scène sont réels, ça apporte peut-être beaucoup plus de surface, ça apporte beaucoup plus de texture en fait au film, ça apporte quelque chose de...
Après tu le sais, hein, t'as bossé sur les tournages, un tournage comme ça, niveau sécurité, t'as toujours peur de perdre un gars, machin, et c'est pas la même chose...
Voilà, ah, mais c'est les assureurs, on a toujours des problèmes avec les assurances, je crois.
On fait pas d'omelette, ça casse les œufs, enfin, c'est comme ça.
Mais ouais, c'est vrai que voilà, ben le cinéma Netflix, le cinéma qu'on retrouve aujourd'hui avec les effets spéciaux, le dernier film de Scorsese, tout ça, c'est
bah du alors, cinéma. À contrario, Les Misérables, raconte-moi.
Les Misérables, mais on va vous raconter Les Misérables après une petite page musicale, parce qu'on va faire une petite pause de musique.
Tout le monde dit c'est le nouveau La Haine, je veux savoir.
21h42, ouais, on va en parler, on va bien en parler des Misérables. On va tout de suite vous jouer un titre qui, lui, en fait, est apparu dans Casino. C'est Love is the Drug de Roxy Music. A tout de suite. Radio Galère 88.4 diffusé en DAB+ et également sur radiogalère.org. Alors tout de suite on va reprendre avec
Les Misérables.
Je l'ai vu au cinéma.
Tout le monde dit c'est le nouveau La Haine.
Et justement, je pense que les gens en fait ont tendance à faire des rapprochements parfois à des associations sur les films qui sont pas forcément qui sont pas forcément justifiés. Parce que c'est quoi, c'est le rapport à la haine, c'est quoi? C'est que ça se passe dans une cité.
C'est toujours pareil. On les a catalogués direct.
Ça, tu vois. Voilà. C'est ça.
Mais c'est mais, ça a rien à voir.
Ben non, ça a plus rien à voir quoi. Non,
j'imagine bien le contexte ou l'histoire, mais est-ce que ça va raconter le même genre d'histoire ou on va juste suivre comme ça une bande de gamins et voilà
On suit une bande de gamins, mais cette bande de gamins, en fait, c'est des mecs de la BAC.
D'accord.
Tu vois.
Mais c'est des beaux bébés déjà. C'est des beaux bébés.
C'est des très beaux bébés. C'est-à-dire, c'est des mecs, ils ont tous cet aspect un peu juvénile, tu vois. Et voilà, l'histoire, en gros, voilà, je vais pas. Bon, ici, hein, on est quasiment 1 million maintenant à avoir vu le film en France. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont pas vu. J'espère que ça va vous donner envie d'aller le voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vaut le coup. En fait, voilà, l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est une brigade qui tourne, en fait, dans la cité des Bosquets à Montfermeil, dans la banlieue parisienne. L'idée, c'est que dans le film, il y a.
Est-ce que tu as envie d'y passer tes vacances quand tu regardes le film? C'est.
Quand tu vois en fait les.
Tu réservais sur. Il y a un truc sur TripAdvisor sur eux, ça se.
Ouais.
Il y a les étoiles de la BAC.
Il y a un truc, il y a les étoiles de la BAC. Si tu veux passer tes vacances un peu dans Vice City ou dans un épisode un peu de GTA, dans une mission de GTA 5, quoi. Carrément, c'est un truc qui donne un peu envie. En l'occurrence, le truc, c'est que, ouais, donc les Misérables, c'est quoi? C'est l'histoire, en fait, d'un mec de la BAC qui était à Cherbourg, qui a demandé, en fait, à être muté en région parisienne. Il intègre, en fait, cette brigade-là, cette brigade, en fait, de jour qui tourne dans la cité des Bosquets. Donc, en fait, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que ces trois condés-là, c'est des mecs, en fait, qui sont un peu au fait, tous les jours, de régler un peu des relations entre les uns et les autres. Alors, il va y avoir, à un moment donné, des tensions sur la place du marché, où il y a un mec qui a quelques centimètres, quelques mètres de plus, en fait, par rapport à ce qu'il a réservé sur ses mètres linéaires. Donc, du coup, ça crée des jalousies, ça crée des tensions. Il va y avoir aussi un autre truc avec un enfant qui a taxé des poules qu'un mec avait mis dans une cave. Donc, si tu veux, en fait, ouais, mais c'est ça, quoi, le petit voleur de poules. Et en fait, il y a tout un contexte comme ça qui est fait justement sur cette cité. Donc, c'est la cité, en fait, qui est vraiment montrée en termes de cité, c'est-à-dire pas comme la cité, on l'imagine, la cité, la banlieue, les voyous, mais comme vraiment une cité à part entière où il y a toutes sortes, en fait, de personnes, de communautés qui vivent là. Et donc, il y a un truc qui est un peu autarcique, c'est-à-dire qui est son propre système économique, son propre système de règles, son propre système de fonctionnement. Alors voilà, avec des trucs un peu tribaux, voilà, un système qui revient aussi de l'Afrique avec le truc des cantines. Il y a aussi ce truc. Et en fait, si vous voulez, la police, elle est là, elle fait un peu. Ils sont un peu médiateurs, mais c'est des mecs de la BAC. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y en a un parmi eux qui est quand même une sacrée enflure. C'est le dénommé Chris. Chris, ouais, la baguette dans le fond de la boîte à bois, c'est une expression québécoise pour tous les amis québécois. Et
ça la remercie parce qu'on sait que dans les côtes, ils sont très très bons.
Et donc le fameux Chris, en fait, c'est le mec, c'est un peu le fouteur de merde, quoi. C'est la tête à claque, c'est le mec qu'on a envie de tarter. Mais c'est aussi le mec, si vous voulez, qui a un peu plus d'épaisseur que ça. C'est-à-dire que c'est aussi le gars dans la brigade, en fait, de la BAC et par rapport, en fait, aux habitants du quartier, qui crée un lien. Alors on laisse à penser qu'il a un peu des business avec des gars, ça parle un peu sap, ça parle un peu meubles, ça parle un peu de trucs comme ça. Et donc il y a ce mec-là, j'ai oublié son nom, en tout cas le mec c'est Damien Bonnard qui donc rejoint la brigade. Et lui, en fait, voilà, son principe, son rôle, ça va être justement, ben, c'est sa première journée. Donc le mec, il est là, il fait son baptême du feu avec eux et il va tourner dans le quartier. Et puis,
petit bisou.
Ouais, c'est un sacré bisou quand même. C'est un sacré bisou. Et il va tourner dans le quartier. Puis en fait, le truc, c'est que c'est le film assez bien mené. L'a dit, c'est bon, là où il y a une réalisation qui est. Ouais, il y a quelques punchlines, mais pas de punchline en fait de la part des Condés. Ouais, déjà, il est surnommé Pento. Ça, c'est te rappeler tes années lycée, ça.
Je veux bien.
Sûr, t'en avais un peu.
J'avais cheveux longs.
T'avais les cheveux longs?
J'ai les cheveux longs.
Ah ouais. Un peu comme Bronson est avec nous, quoi. Comment, Katia, c'est ça?
Monsieur Katia. Non, mais alors, je voudrais m'excuser quand même, parce que j'ai dit des choses affreuses sur ta maman tout à l'heure. Je ne la connais absolument pas, d'accord?
Les scores? Bah, il a lâché l'affaire.
Le lapin, là.
Clément Turpin, il a lâché.
Non, on va attraper la myxomatose à cause de lui. Je le sens.
Bref, et du coup, en fait, ouais, pour avancer un peu sur Les Misérables, c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire que c'est un film, en fait, donc il n'y a pas de rapport directement avec la haine. Parce que la haine, c'était un film.
Il n'y a pas de filiation.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de filiation, honnêtement. Il n'y a pas de filiation. Je pense qu'il y a aussi une volonté de s'en détacher. La haine, en fait, si tu veux, ça reste quand même un film qui a été fait par Mathieu Kassovitz, qui est un mec qui connaissait.
Oui,
qui,
je pense qu'il était très attiré par le milieu hip-hop. Et puis, il y a un storyboard.
Le milieu banlieue.
Il y a un storyboard
aussi dans la haine. Effectivement, il y a un storyboard. Je pense qu'il y en a un aussi dans le film de dans Les Misérables quand même, ouais. parce qu'il y a des séquences quand même. Faut les filmer, quoi. Faut aller capter le truc.
Mais souvent, il filme un peu en freestyle. Il laisse un peu faire. C'est un peu comme un Lelouch qui arrive sur le plateau. Il fait ouais, fais ton truc.
Il y a beaucoup d'enfants et c'est des acteurs aussi qui sont pas professionnels à part la brigade et deux trois apparitions comme ça. Donc on a une très très bonne apparition aussi de Romain Gavras, voilà, qui fait une petite apparition dans le film. C'est des mecs de l'équipe de Courtrage, mais etc. Donc voilà, bon, ceux qui verront le film, ils reconnaîtront Romain Gavras qui s'est rasté la moustache mais qui a gardé la barbe.
Donc il est assez
pertinent dans son interprétation de figurant. Mais ouais, le film, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là où la haine, en fait, il fait une espèce de montée en tension, mais qui reste, en fait, avec un regard qui est extérieur à la cité. Parce que du coup, c'est quelqu'un, en fait, qui, Mathieu Kassovitz, qui n'a pas grandi. Donc, même si pendant le tournage, ils se sont immergés, ils avaient loué un appartement et ils sont restés, je crois, pendant 3 semaines à vivre dans l'appart, au cœur de la cité et tout ça, avec les habitants. Il y a quand même ce truc-là aussi, qui est qu'il n'est pas de la cité, que Vincent Cassel, il n'est pas de la cité, que Hubert Koundé, il n'était pas non plus du quartier. Et donc, il y a, si tu veux, en fait, un truc.
Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est pas qu'il n'est pas de la cité pour Kassovitz, parce qu'il y a passé beaucoup de temps enfant.
Je parle de la cité où il tourne, en fait.
Oui,
hein, mais
il était à Épinay sur Seine, il traînait avec les gars d'Épinay, etc. Il y était tout le temps, donc il se barrait de son côté, les endroits où il était un petit peu safe, tu vois, mais il allait se confronter à ça, gamin, et c'est comme ça qu'il les a connus.
C'est l'univers hip-hop, en fait, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans cet univers hip-hop, un univers urbain, mais pas... Il n'a pas vécu, en fait, l'organisation de la cité. Après, ce qu'il y a aussi, mais tu as raison, quelque part, hein, de dire ça. Après, ce qu'il y a
qui
aussi.
Qui recevait au moins le discours premier, sans filtre, de ceux qui étaient là-bas sur place.
Ah ouais,
quoi.
Bien sûr.
Voilà, il l'avait avant de commencer le film, quoi.
Alors qu'on soit d'accord, hein, je ne dis pas que c'est un mauvais film, La Haine. Hein. Ce n'est pas ça du tout.
Ah, mais
c'est un film de son époque aussi.
C'est un film de son époque, il est critiquable sur plein de choses. Et après, quand tu sais les moyens qu'il a pour tourner, qu'on tourne en noir et blanc parce qu'on n'a pas les moyens de tourner en couleur. Enfin. Il y a plein de contraintes. Une fois que tu prends toutes les contraintes et que tu reprends le film, tu peux lui apporter un regard bienveillant ou non.
Ouais. Mais et donc du coup, ce qui différencie en fait avec la haine, on n'a plus beaucoup de temps. Il est 21h54. On va pas tarder à rendre l'antenne.
Bah, parce qu'il y a le concert derrière.
Et ouais, il y a le concert. Il y a le douille qui arrive. Il y a plein d'instruments dans le studio.
Il y a plein de trucs qu'on connaît pas en plus.
Il y a des trucs assez intéressants. Il y a des cailloux, des coquillages. Il y a des bouts d'os. Ça va être intéressant.
Ils viennent du futur,
Mais c'est vrai que, ouais, bah pour finir en fait sur Les Misérables, c'est un film qui a une véritable pêche, c'est un premier film, donc il y a pas de technique, il y a pas de volonté, il y a pas d'académisme, il y a pas la volonté de plaire. C'est quelque chose qui est brut. Ça monte en tension tout le long. Au départ, ça met du temps quand même à se mettre en place. Ça arrive au fur et à mesure, mais c'est pas super. Ça prend quand même pas mal de temps et on se retrouve voilà avec des personnages qui sont dépeints. C'est assez intéressant. Ce qui est en tout cas pour moi le plus intéressant sur le film, je suis désolé parce que j'abrège un peu, ce qui est pour moi le plus intéressant sur le film, c'est ce moment où en fait c'est une fresque, si vous voulez, de la société française, de la France d'aujourd'hui. C'est pas un film sur les banlieues, c'est un film en fait sur ce qu'est la France aujourd'hui, sur l'état de la France aujourd'hui. C'est triste à dire, mais c'est un constat qui est réel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des laissés pour compte. Marseille est une ville, hein, je veux dire, qui fait un peu penser aussi à cette cité des Bosquets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui voilà, on construit à tout va au cœur de la ville, mais il y a quand même eu aussi cette fracture là pendant 20 ans, sans tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, mais voilà, on a ces trucs là à Marseille en tout cas de laisser pour compte aussi et pour l'ensemble de la population marseillaise. Donc il y a quelque chose qui s'y retrouve aussi qui est vraiment intéressant. Moi je vous invite à aller le voir, ce film de Lajli. Je pense que c'est un cinéma aussi qu'il faut soutenir. Ça prend des risques, ça va assez loin. Voilà, il y a une très très bonne direction d'acteur, il y a une très bonne réalisation, il y a aussi une très très bonne musique. On n'a plus beaucoup de temps, du coup on va pas tarder à rendre l'antenne. Il est 21h56. Vous allez avoir le concert qui va arriver derrière. Nous, on vous laisse avec un morceau de musique. Ce morceau de musique, pour clôturer l'émission, c'est Beyond the Sea de Bobby Darin. C'est dans Les Affranchis. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. On parlait de Marseille. Bah, du coup, voilà, ça va vous rappeler un peu les bords de
Noël
la Méditerranée.
De Thomas.
Un petit clin d'œil.
Nous, on souhaite des bonnes fêtes là, à tous nos auditeurs. On les retrouve à l'année prochaine en plus.
On vous retrouve
à la bonne vente à l'année prochaine.
Je crois qu'on se retrouvera le mardi 7 janvier, exactement, 21h-22h. Joyeux Noël à tous, bonne fête.
Et moi, j'avais promis de faire une dédicace à un copain qui s'appelle Casu. Il voulait que je lui fasse un bisou. Je lui fais un bisou. Voilà,
bisous,
c'est fait.
Casu.
Tu commences
à me
voilà.
Et moi aussi, je fais une petite dédicace pour mon pote Benoît Bourrel, le bebeu qui m'a permis de pouvoir voir en tout cas le film de Scorsese, The Irishman. Et merci à lui. Grosse dédicace à toi. Très bonne fête à vous et joyeux Noël, Félix. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms.